Bonjour à chacun et chacune en ce deuxième dimanche de l'Avent. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte avec un morceau de musique. Merci aux musiciens. guise de prière de repentance et d'annonce de grâce, je vous invite à laisser résonner en nous ce texte méditatif. Comment Dieu pourrait interroger nos vies et nos manières de l'attendre? Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais dit Dieu, sous les pavés de vos errances, un avant de tendresse se prépare, où je vous attends, comme la nuit attend le jour. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. C'est dans vos réponses, le 41-16, pour ceux qui suivent dans les cantiques, le 41-16, nous te célébrons, Dieu de vérité. La page 322 et nous chanterons les trois strophes.
Pour sauver son peuple.
avant de lire dans la Bible. Ça tient comme ça. Est-ce que ça va comme ça?
Oui.
Merci, Bernard. Avant de lire dans la Bible, nous voulons prier. Seigneur, tu viens pour nous guider et nous porter dans ce monde. Que la confiance que tu nous as donnée en Jésus-Christ nous donne la joie de vivre dans ta lumière. Prépare-nous à t'accueillir et à marcher avec toi afin que nous demeurions en toi. Donne-nous d'entendre ta parole pour notre vie afin qu'elle puisse nous conduire sur nos chemins. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin un extrait de l'évangile de Luc. C'est assez long comme lecture, donc je vous invite à bien vous installer. C'est au chapitre 1er de l'évangile de Luc, les versets 5 à 25, et aussi quelques versets de la fin de ce chapitre. C'est Zacharie qui est, et Élisabeth, mais un peu moins, vous allez voir, qui est au centre de cette histoire. Et puis il s'agit donc d'un moment avant la naissance de Jésus et avant la naissance de Jean le Baptiste. Écoutons Luc. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe des prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Toute la foule des fidèles priait au dehors, à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui dit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler, et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher, et elle mit au monde un fils. Le 8e jour après sa naissance, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Il voulait lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent, « Mais personne dans ta famille ne porte ce nom. » Alors ils demandèrent par geste au père comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie se fit apporter une tablette à écrire, et il y inscrivit ces mots, Jean, et bien son nom. Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Alors, tous les voisins éprouvèrent de la crainte, et dans toute la région montagneuse de Judée, l'on se racontait ces événements. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces termes, « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous parmi les descendants du roi David, son serviteur. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » J'ai envie de dire Amen. Et je vous invite de chanter, Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. C'est le numéro 3120 dans vos cantiques, sur la page 330. 3120, 330, et nous chantons les 3 strophes, et je vous invite à vous lever.
Thank you.
Chères sœurs, chers frères, rassemblés ce matin, Zacharie et Élisabeth, parents de Jean le Baptiste, deux personnages dont on parle peu durant le temps de l'Avent et lors des fêtes de Noël. C'est pourquoi j'avais souhaité ce matin prendre un peu de temps pour aller avec vous à la rencontre. Et surtout à la rencontre de Zacharie, parce qu'il est quand même vraiment dans le centre de cette histoire. D'abord, je voudrais regarder avec vous leur prénom. Qu'est-ce qu'il signifie ? Souvent dans la Bible, lorsqu'on donne un nom, on donne aussi une vocation, ce à quoi on est appelé ou le souhait qu'on attache à ce prénom. Elle indique le sens, la raison d'être d'une vie. Et cela est particulièrement vrai pour ces trois prénoms, Zacharie, Élisabeth et Jean. Zacharie signifie « l'Éternel se souvient ». L'Éternel se souvient. Élisabeth signifie « l'Éternel tient ses promesses ». L'Éternel tient ses promesses. Et quant à l'enfant qui est donné, il doit s'appeler Jean. Et ce prénom signifie « l'Éternel fait grâce ». L'Éternel fait grâce. Dans la Bible, les prénoms des hommes et des femmes racontent pas seulement l'histoire d'une famille, ils disent aussi quelque chose de fondamental, de l'histoire de Dieu avec l'humanité. En ces trois prénoms, tout le message de l'Avent et de Noël est déjà présent. L'Éternel se souvient, l'Éternel tient ses promesses, et l'Éternel fait grâce. Trois prénoms qui suffisent pour nous dire ce que Dieu veut être pour nous et comment Dieu veut être avec les humains. Mais revenons à Zacharie. Un prêtre resté sans voix, devenu sans voix, parce qu'un événement de sa vie lui a coupé la parole. Lui a enlevé la parole. Il est condamné à se taire pour, comme dit l'ange Gabriel, pour n'avoir pas cru. Il n'a pas cru à ce qui paraissait inconcevable. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Zacharie n'a pas cru et c'est assez banal qu'on ne croit pas. Et surtout dans ces situations-là, où lui-même est très âgé, et Élisabeth aussi. Et il n'a pas cru, j'ai envie de dire, à l'ingéniosité du vivant, qui trouve toujours une sortie pour la vie. Et pourtant, Gabriel dit au début de son apparition, « N'aie pas peur, car ta prière sera exaucée. » C'est la prière d'avoir un enfant dont parle Gabriel. On ne sait pas très bien. Ou est-ce que c'est de quelque chose de plus grand, dont il rend grâce justement tout à la fin de ce chapitre, dans ce magnifique cantique de Zacharie, dans ce chant de louange. Il dit que Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Il a suscité un sauveur. Zacharie dévoile par ses paroles quelque chose qui est plus grand, qui est au-delà de la naissance de son propre fils Jean. Il dévoile en quelque sorte l'espérance avec un grand E, comme on dit. Une espérance plus grande que le simple signe pour cette espérance-là, qui est bien la naissance de Jean. Et qui se manifestera aussi, surtout dans la naissance de Jésus de Nazareth. Mais toujours est-il qu'au moment où l'espéré arrive, il arrive quand même comme un total inattendu. Et Zacharie a du mal à imaginer et à accueillir cet inattendu. Alors, il doit entrer dans un temps d'intériorité, privé de parole. Est-ce que vous avez pris conscience en écoutant le récit? Je vous le demande parce que moi, j'ai vraiment, en le lisant et relisant, il m'est apparu qu'il a dû se taire pendant plus de 9 mois. 9 mois, il est resté sans parole. C'est pas seulement un jour, 5 jours, une semaine. 9 mois, plus de 9 mois. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Qu'est-ce qu'il a dû vivre comme expérience d'intériorité, cet homme? Et pour les autres aussi, c'était une expérience saisissante, je suppose, d'avoir à côté de soi un homme, un mari, un prêtre, un ami qui ne parlait plus. Est-ce que cette situation de Zacharie peut nous parler? Est-ce que nous connaissons des moments où nous n'avons pas de parole, pas de mots à mettre sur ce qui nous arrive? Des fois, ça peut être dans un moment de difficulté. Des fois, ça peut être aussi un moment de joie. C'est tellement grand, et la difficulté et la joie, que je n'arrive pas à mettre un mot dessus à l'instant même. Et il me faut du temps pour l'intérioriser et pour trouver une parole, pour trouver des paroles qui puissent témoigner à l'extérieur de moi qu'est-ce que j'ai traversé. Et je pense que ça peut nous arriver à nous aussi. Attendre contre toute attente et espérer contre toute attente, bien au-delà de ce qui est imaginable ou représentable. L'espérance est déjà contenue dans cette posture d'attente et d'espérance. Notre vie est-elle faite de ce genre d'attente et d'espérance qui est plus grande de quelque chose qu'on attend immédiatement, mais qui est au-delà et qui nous porte justement tous les jours à nouveau pour aller plus loin? Zacharie n'attendait peut-être plus rien de précis, pas un résultat précis à sa prière, mais il était quand même en attente. Il avait cette posture d'attente et elle est louée, reconnue par Dieu, parce que Dieu envoie un messager. Et il lui donne quelque chose qu'il n'attendait plus, mais il était en attente. Alors au bout de 9 mois de silence, le temps d'une gestation, d'un mûrissement et d'une naissance, Zacharie chante la gloire de Dieu, car maintenant il a perçu les signes concrets du salut de Dieu. Et ce qui est magnifique dans ce texte, c'est que ce n'est pas, si on écoute bien, ce n'est pas au moment de la naissance que Zacharie retrouve la parole. C'est au moment, 8 jours après, au moment de la circoncision, au moment où on donne le nom, le prénom à l'enfant. Et vous avez entendu, la foule est venue, et à dire la foule, la famille, les proches, etc. On dit, comment tu appelleras? Et là, Élisabeth intervient, et Élisabeth dit, notre fils, il s'appellera Jean. Puis les gens ne comprennent plus rien, parce qu'il était tradition de donner le nom du père, ou du moins de quelqu'un de la famille. Mais il n'y avait pas de Jean dans la famille. Et alors, Élisabeth dit, il l'appellera Jean, mais la foule se tourne vers le père, parce que c'est le père qui nomme. Encore aujourd'hui chez nous, un peu, parce qu'il ne donne pas la naissance, c'est la mère qui la donne. Et justement, c'est reconnaître l'enfant que de nommer l'enfant. Et Zacharie, qui n'a toujours pas sa parole, demande une tablette et il dit, c'est bien Jean, le nom de l'enfant. Et c'est au moment où il nomme l'enfant et où il reconnaît sa paternité, c'est son fils. C'est à ce moment-là qu'il devient père, j'ai envie de dire, et qu'il accède à la parole à nouveau. Il retrouve la parole. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique comme signe. Hein. Alors, est-ce que nous pouvons aussi reconnaître dans ce qui se passe là, l'intervention de Dieu, même si c'est quelque chose, évidemment, des récits qui nous dépassent. Mais Zacharie reconnaît qu'il y a cet enfant, mais il y a plus que cet enfant qui se passe. Zacharie, dans son hymne qui vient après, et je vous invite à relire ce récit en entier quand vous rentrez chez vous, il y a trois mots pour terminer que j'aimerais retenir de cet hymne-là. Le premier mot, c'est « visite » ou « venu ». Mais c'est « visite » quand on le traduit textuellement. Dieu visite, il vient pour faire grâce. Il vient dans la vie de Zacharie et sa vie en est changée, transformée. Dieu vient aussi chez nous. Et c'est à nous de nous demander comment nous l'accueillons dans notre vie et dans notre relation aux autres. Le deuxième mot que je retiens de ce beau hymne, c'est la lumière. Le soleil levant brillera sur nous d'en haut pour éclairer, dit-il. Cette lumière n'éclaire pas seulement le passé ni le présent, mais elle ouvre aussi l'avenir. Et est-ce que nous aussi, nous sommes constamment sur les traces de cette lumière qui est sur nos présents, mais qui éclaire aussi notre avenir? Et puis la paix, enfin, l'hymne se termine comme ça, pour diriger nos chemins vers la paix. La présence de Dieu vivant peut nous transformer, nous permettre de nous placer dans cette posture d'attente, d'espérance, de résistance au milieu de tout ce qui peut être difficile à traverser dans nos vies. Diriger nos chemins sur les chemins de la paix signifie partager avec d'autres ce bien précieux par des actes concrets d'engagement, de partage. La paix donnée par Dieu nous met en mouvement pour les autres. Visite, lumière et paix. Je nous souhaite à nous tous, en ce deuxième dimanche de l'Avent, que ces trois mots clés de la joie de Zacharie puissent aussi résonner pour nous. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre ces jours d'un Avent liturgique comme l'Avent de Dieu dans notre vie. Alors nous pourrons nous réjouir pleinement et chanter du fond du cœur avec Zacharie, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple et accompli sa libération. Ainsi soit-il. » Je vous invite à chanter. Toi qui es lumière. C'est le 31-28 dans vos cantiques, la page 339. 339, 31-28, et nous chanterons les deux premières strophes et les deux dernières. On ne chantera pas la troisième. 1 et 2 et 4 et 5. C'est un texte écrit par la communauté de Pomerol. Qu'on peut faire comme une prière ou comme une confession de foi. Et donc je vous invite à la dire tous ensemble. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain. Et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain. Et bien que faible aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain. Et bien qu'angoissé aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve. Et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain. Et bien qu'elle soit cachée aujourd'hui, je crois.
Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui je crois.
Et je vous invite à chanter à pleine voix, chantons pour Dieu. C'est le 32-08. Il est, je crois, dans vos... Mais puisque vous êtes dans vos cantiques, restez dedans, le 32-08. 32-08. Et on chantera la première strophe.
Le culte d'obsèques de François Chaveyron et nous sommes tous invités à être en communion de prière et de pensée pour cette famille en deuil. Dans le cadre de notre paroisse, les activités du mois de décembre, dimanche prochain, ici même à 15h, Edith, j'ai bien dit 15h, 15h, fête de Noël, il n'y aura pas de culte le matin. Ensuite, le mercredi 19 décembre à 16h30, à l'hôpital de Mauze, c'est le culte de Noël des personnes âgées et des résidents. Ensuite, le mardi 25 décembre, culte ici même à 10h30, suivi du verre de l'amitié, il n'y aura pas de culte le 23. Le 24 décembre, il y aura bien sûr à 19h ici, la veillée de Noël. Nous sommes chargés de vous dire que l'étude biblique qui est proposée par Rabbi Nicola, qui est chargé de mission par la paroisse de Tens, aura bien lieu le mercredi 12 à 20h à Tens, mais au temple et pas au presbytère. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres infos à échanger? Bon dimanche à tous. Merci Esther.
C'est maintenant le moment de l'offrande. Dieu nous a donné Jésus-Christ, plein de reconnaissance. Apportons aussi notre offrande, elle est signe de notre joie et de notre participation à la vie de l'Église.
Thank you.
Je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, c'est parce que ta parole nous appelle que nous pouvons maintenant te prier dans la communion de l'Église universelle. Affermis notre foi et rends-nous disponibles à ta parole et capables de saisir les occasions d'agir ou de parler en témoin de Jésus-Christ. Nous te prions les uns pour les autres. Nous déposons devant toi les préoccupations pour notre vie et pour celles qui cheminent avec nous dans cette communauté, dans nos familles, dans le cercle de nos amis et collègues. Tant de situations et de personnes qui nous préoccupent et que nous portons devant toi. La traversée de la maladie, la perte d'un être cher et la traversée du deuil, la fin d'une relation et le manque d'amour, la solitude et l'isolement, le manque d'orientation, le chômage, le trop-plein de travail. Seigneur, nous posons aussi devant toi la situation dans notre pays qui exprime bien tout ce qui préoccupe les humains, toutes les impasses qu'ils peuvent ressentir. Seigneur, donne-nous d'être des artisans de ta paix, d'écouter, de parler, de réconforter, de secourir. Lorsque notre prochain qui se présente devant nous a besoin de nous. Il est souvent difficile de trouver un juste équilibre ou une harmonie dans nos vies. Et pourtant, nous aspirons à une vie en paix, avec de l'amour partagé, de la dignité et de la justice partagée. Seigneur, donne-nous à notre place ici d'être signe de ton espérance et de ta venue parmi nous dans ce monde. Et nous voulons te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour que nous recevions ensemble les paroles d'envoi et de bénédiction. Apportons une parole de vie dans nos quotidiens. Témoignons de l'espérance du Christ. Le chemin continue maintenant en dehors de ce temple, en dehors de ces murs, auprès de tous ceux que nous rencontrons. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, nous dit le prophète Zacharie. Vivons de cette espérance. N'ayons pas peur, car le Seigneur notre Dieu est avec nous. Que la paix de Dieu soit sur nous. Que la paix de Dieu soit en nous. Que la paix de Dieu soit par nous. Allons en paix. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble « Bénis-nous Seigneur ». C'est dans vos réponses, mais sinon dans les cantiques 62-82. 62-82, bénis-nous Seigneur les strophes 1 et 2. Merci.